Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'architecte toulousain Lévi Reban, maître de la brique. Au XIXe siècle, a vu s'épanouir à Toulouse un style architectural parfaitement réussi, grâce à une famille de briquetiers talentueux, la famille Vireban. L'histoire de cette famille commence au XVIIe siècle. Les Vireban sont alors à Toulouse. Ce sont des bourgeois, marchands, parfumeurs, gantiers, notaires. À la fin du XVIIIe siècle, on les trouve géomètres et réalisateurs du cadastre. Le premier, c'est Jacques-Pascal Vireban, qui naît en 1746. Il fut l'ingénieur architecte de la ville de Toulouse, à la fin du règne de Louis XVI jusqu'à Louis-Philippe. Il aménagea la place Villeneuve, aujourd'hui place Wilson, la place du Capitole, les allées Jean Jaurès, tout ceci durant 50 ans. Son fils, Auguste Vireban, est né en 1792. Il ne lui succède pas. On lui préfère alors son neveu, Urbain Vitry, comme ingénieur de la ville. Comme leur nom l'indique, les Vireban vont tout de suite savoir se réorienter. Les cinq frères baignent tous dans l'art depuis leur enfance. François et Auguste sont architectes. Victor est avocat et Sylvestre et Prosper sont d'excellents gestionnaires. Aussi, les fils Vireban achètent, en 1829, l'ancien manoir de Launaguet. Ils fondent une briqueterie sur un vaste terrain avec une colline de bonne terre, la colline de Miremont. De là, ils vont révolutionner la décoration en inventant une technique, la plinthotomie, procédé de moulage de céramique permettant de créer des ornements jusqu'alors uniquement réalisables en pierre. C'est en 1831 que les Vireban déposent ce nouveau brevet pour un système de presse pour fabriquer la brique. C'est le début de son industrialisation. Elle permet d'obtenir des formes et des dimensions différentes et surtout un format identique et une texture plus fine, plus facile à tailler. Les presses imprimaient aussi des dessins sur l'envers qui assuraient une meilleure prise du mortier. La personnalité des frères la plus marquante est celle d'Auguste, qui semble être un élément essentiel dans la réussite de cette entreprise. Au XIXe siècle, Toulouse et sa région sont relativement pauvres. Ceci contrairement aux villes industrielles du Nord, ou celles économiquement plus actives comme Lyon, Bordeaux. Sans doute existe-t-il quelques rares fortunes. L'immobilier s'oriente vers des immeubles à louer, à loyer réduit ou à fonction commerciale. Nous ne sommes plus aux beaux hôtels de la Renaissance toulousaine, alors que Bordeaux continue à tailler la pierre, comme par le passé. Toulouse s'oriente vers une brique peu chère, qu'elle avait déjà à l'époque médiévale, mais le talent des Virevans va rendre cette brique somptueuse. La pierre est un matériau rare et trop coûteux à Toulouse. Aussi, les Toulousains vont prendre une revanche sur leur pauvreté en réconciliant l'art et industrie. La fabrique fondée par les frères Virevans va offrir aux architectes tout le nécessaire dans l'ornementation des immeubles, avec la brique moulurée ou les ornements pour métamorphoser une construction élémentaire en un palazzo, aux références du classicisme architectural. Les Virevans fabriquent des ornements complexes, moulés en pâte rouge ou blanche, imitant la pierre, chapiteaux, modillons, frises, pilastres, dans toutes les dimensions, dans des délais brefs, au prix défiant toute concurrence. Ils surent seuls offrir un catalogue complet et des pièces de qualité irréprochables. Ils proposaient des matériaux nouveaux, une production mécanisée, des éléments préfabriqués pour des combinaisons diverses. Alors nous allons voir maintenant les réalisations. Dès 1835, les Virevans réalisent un vaste et superbe hôtel situé sur les boulevards. Il présentait une façade plate, rythmée par des pilastres et une forte horizontalité. Des ouvertures, mais malheureusement démolies en 1970. L'hôtel le plus riche d'ornements fut construit par Auguste Virevan pour sa belle famille en 1836, au numéro 28 de la rue des Marchands. Tous les éléments les plus aboutis de la fabrication y sont représentés, briques et enduits. Ils suggèrent une polychromie rouge et blanc, colonnes corinthiennes, pilastres, volutes et surtout 12 cariatides monumentales encadrant les 6 portes-fenêtres du premier étage. Il y a aussi les meubles du 10 rue Peyras. On y trouve des pilastres monumentaux et 6 portraits en couple du jubé de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges en moulage. L'hôtel de Victor Cassé, 20 rue Lafayette, inspiré de l'hôtel parisien de la courtisane La Paeva. Ici, nous trouvons un foisonnement de décors. Salamandres, démons ailés, portraits en demi-lune, etc. Auguste Virevan semble avoir retrouvé, sans esprit de pastiche, l'esprit du décor de la Renaissance, comme l'immeuble de l'allée Jean Jaurès, orné de 2 cariatides au-dessus de l'entrée. Urbain Vitry, cousin d'Auguste Virevan, grand architecte de la ville, va construire ainsi de nombreux bâtiments à Toulouse. Abattoir, école de médecine, théâtre Sorano, colonne du général Dupuis, barrière d'octroi, Vitry est dans l'esprit des Virebans. Il a une formation proche de son cousin Auguste. Ses goûts pour la construction à l'italienne se voient. Place de la Trinité dans la maison Lamotte, décorée de statues couronnées par un belvédère. Il s'agit ici d'un premier essai d'ornementation de terre cuite. La collaboration d'Urbain Vitry et de Virevan est visible dans d'autres immeubles. L'hôtel Thibault, rue Saint-Antoine-du-Té, construit en 1849. Dans la rue de la Pomme, autre immeuble attribué à Auguste Virebans. Place de la Patte-d'Oie, on y trouve le motif en serlienne de la maison dite modèle. Auguste Virebans meurt en 1857. Auparavant, Gaston, son fils aîné, prend la direction de l'entreprise pour une période qui durera 66 ans. Formé à l'école des arts de Toulouse et à Paris, il réalise des peintures et des gravures et se distingue par son travail sur la polychromie. Gaston est un céramiste de talent, décorateur et émailleur. On lui connaît de magnifiques réalisations, dont le tympan de l'église Notre-Dame de la Dalbade, mais aussi l'hôtel principal de la Vierge Noire et celui de la chapelle de la Sainte-Épine à Notre-Dame de la Dorade. Aussi des églises à Launaguet, Saint-Jean, Pibrac, Saint-Denis de la Réunion aussi, et Sainte-Clotilde à Paris. Nous sommes à ce moment-là dans la période de la séparation des églises et de l'État, ainsi que la guerre de 14-18. Et tout cela va entraîner une baisse de commandes qui va porter tort à l'usine. Les deux fils de Gaston, Raymond et Henri, poursuivent son œuvre. Cette année 2025, nous célébrerons le centenaire de la mort de Gaston Virebans. Raymond, qui est né en 1875, son fils aîné, lui succède. Formé à l'école des Beaux-Arts de Toulouse et de céramique de Limoges, il a à cœur de maintenir l'entreprise. Il réalise des céramiques pour le cimetière de Terre-Cabanne, des monuments aux morts, les thermes de Salis en 1923, des décors dans la villa de Vincent Auriol. Les deux frères vont se séparer malheureusement. Henri, le second fils, a appris à Valoris. Vers 1902, il étudie les émaux, se rend à Milan pour perfectionner la porcelaine. Puis, Barcelone. Il crée la chaire de céramique à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Il va créer en 1925 une nouvelle entreprise dans le Lot, à Puy-l'Évêque. Cette nouvelle entreprise va se développer grâce à la fabrication avant-guerre de composants de porcelaine pour l'industrie. Des isolants électriques, des bouchons de bouteilles. En 1934, l'usine compte 100 employés. Après la guerre, l'apparition de nouveaux matériaux, le plastique, va sonner le déclin de cette branche. L'entreprise se tourne alors vers l'art de la table. Elle est alors très réputée pour l'ornementation de vaisselle, faisant appel à de grands décorateurs. Vases, lustres, flacons, fournitures de jardin, etc. Aujourd'hui, l'entreprise Virebon, à Puy-Laurent, fête ses 100 ans. Elle est en partie transformée par un musée qui retrace l'aventure de cette famille d'artistes toulousains. Nous nous devions d'évoquer cette famille qui ont tous contribué depuis plus de 2 siècles à la richesse patrimoniale de la région toulousaine. Je vous remercie et à la prochaine émission. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.